le magazine des Nations Unies.
Marque le début d'une période de transition concernant les relations entre la RDC et la MONUSCO, période pendant laquelle l'enjeu sera le rétablissement des capacités des services de police dans ce pays. C'est l'un des messages forts du représentant spécial adjoint en charge des opérations de maintien de la paix. François Grignon s'est exprimé à l'ouverture d'une session de retraite de la police de la MONUSCO cette semaine à Kinshasa. La coopération entre la MONUSCO, les FARDC et la police nationale congolaise devra se renforcer pour conserver les gains de l'offensive des FARDC contre l'ADF à Beni. Une recommandation du rapport indépendant de l'ancien commandant de la force de la MONUSCO. L'économie de ce rapport a été présentée à la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Et puis, la situation des enfants en RDC s'améliore, mais beaucoup d'efforts sont encore à fournir. C'est la conclusion à laquelle l'UNICEF est arrivée à l'issue de sa revue annuelle 2019 avec le gouvernement. C'était la semaine dernière à Kinshasa. Et pour l'exercice 2021, l'UNICEF a besoin de 320 millions de dollars pour améliorer la situation de l'enfant dans toute la RDC. Dans ce magazine, vous suivrez son représentant au pays. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à tous. Pendant deux jours, soit du jeudi 30 au vendredi 31 janvier 2020, la composante police de la MONUSCO UNPOL a organisé une retraite à Kinshasa. C'était pour réfléchir autour de ses actions de 2019 et envisager celles de l'avenir, en ayant à l'esprit que cette année marque un début d'une période de transition dans la coopération entre la MONUSCO et la RDC. C'est comme l'a souligné à l'ouverture des travaux le représentant spécial adjoint François Grignon. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
Cette retraite de deux jours est l'un des événements importants du début de l'année pour le partenariat entre la RDC et la MONUSCO ainsi que pour l'application du mandat de la mission onusienne, a souligné d'entrée François Grignon. Et pour cause, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO estime que l'on est en voie de tourner la page.
Je pense qu'il est important dans cette retraite que tout le monde se rende compte du rôle stratégique pour une mission comme la MONUSCO, de l'investissement dans le rétablissement de l'autorité de l'État et le soutien à la police nationale congolaise. Parce qu'on est dans, je dirais, l'objectif stratégique ultime de la consolidation de la paix, tourner la page d'une réponse militarisée aux problèmes sécuritaires.
La police nationale congolaise était représentée par son commandant, le général Dieudonné Amouli Bayingwa, qui a vanté un partenariat privilégié.
La composante police de la MONUSCO, c'est parmi nos partenaires les plus privilégiés. Ce que nous avons déjà fait avec la police de la MONUSCO, c'est palpable, c'est visible et c'est concret.
Le général congolais estime cependant qu'il y a encore à faire.
Nous avons encore besoin de quelques réalisations. On doit aller ensemble encore avec la composante police de la MONUSCO.
La représentante spéciale, Madame Leila Zeregui, a présidé l'ouverture des travaux de cette retraite et plaidé pour un partenariat toujours fructueux entre la mission onusienne et la police nationale congolaise.
MONUSCO encore, renforcer la coopération entre la mission, l'armée et la police nationale congolaise pour maintenir les gains de l'offensive des FARDC contre l'ADF dans la région de Beni. C'est l'une des recommandations du rapport du lieutenant général Carlos Alberto dos Santos Cruz. L'ancien commandant de la force de la MONUSCO a récemment présenté au Conseil de sécurité son évaluation indépendante de la réponse de la MONUSCO aux récentes attaques contre des civils dans cette partie de l'est du pays. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies de mercredi 29 janvier à Kinshasa, le porte-parole intérimaire de la MONUSCO a fait le point de cette évaluation du général brésilien dos Santos Cruz, Mathias Gilman, dans cet extrait choisi par Honoré Missenga Kalala.
Je voulais également vous rappeler que le lieutenant-général Santos Cruz a présenté au Conseil de sécurité son évaluation indépendante de la réponse de la MONUSCO aux récentes attaques contre des civils dans la région de Beni. Cette évaluation a révélé qu'au cours des seuls mois de novembre et décembre, plus de 260 civils, femmes et enfants, ont été tués par des combattants présumés des ADF lors d'attaques brutales, principalement la nuit. L'évaluation indépendante a noté qu'une coopération renforcée entre la MONUSCO et l'armée et la police congolaise est essentielle pour maintenir les gains réalisés par l'armée congolaise lors de cette dernière offensive contre les ADF. Au-delà des opérations militaires, l'évaluation a recommandé l'élaboration d'une stratégie globale et conjointe entre le gouvernement et la MONUSCO, y compris au niveau politique, pour lutter contre les ADF et lutter durablement contre l'insécurité dans la région de Beni.
Au cours de la même conférence de l'ONU de mercredi dernier, il a été également question de la situation des droits de l'homme avec le directeur du bureau conjoint Abdulaziz Dioye. Il a présenté le rapport des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire congolais en 2019. En effet, le bureau conjoint a documenté pendant cette période 6545 cas de violation, soit une diminution de 4% par rapport à 2018. Dans cet extrait choisi par Honoré Missenga Kalala, le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme donne des détails sur cette baisse des cas.
Nous avons documenté 6545 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire, ce qui représente une légère baisse de 4% par rapport à 2018. Cette diminution s'explique notamment par une réduction significative à partir du mois de février du nombre de violations des droits de l'homme en lien avec des restrictions à l'espace démocratique. Nous avons eu une réduction de moins 26%. Le nombre de violations attribuables à des agents de l'État a diminué de 15%, notamment en ce qui concerne les agents de l'ANR, de la PNC ainsi que d'autres agents de l'État, tandis que le nombre des violations par les FRDC est resté relativement stable, avec une légère baisse de 3%.
Et puis, 320 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, devra disposer pour couvrir les besoins des enfants en RDC au cours de l'exercice 2020-2021. C'est ce qui est ressorti de la revue annuelle tenue cette semaine à Kinshasa par cette agence. Au cours des travaux, les experts ont constaté que la situation accuse une tendance à l'amélioration globale, mais beaucoup d'efforts restent encore à réaliser. Jean-Pierre Ilali Koko.
L'UNICEF et les représentants de toutes les provinces ont passé en revue la situation de l'enfant en 2019 dans plusieurs domaines. Selon les résultats, la situation de l'enfant congolais a tendance à s'améliorer, mais Edouard Bekbeder, représentant de l'UNICEF.
Donc la situation, même si elle a tendance à s'améliorer, on voit aussi qu'il y a toujours de grands problèmes qu'on n'arrivera pas à régler tout seul. Il faut qu'effectivement on ait un partenariat plus intense.
Partenariat attendu notamment dans la participation de l'enfant sur le digital. Gilbert Lusamba, chef des divisions chargées de l'orientation des programmes au ministère du Genre.
Quand on associe le message sur digital dans les langues nationales, on trouve qu'il y a plus moyen d'atteindre encore davantage du public.
Parmi les améliorations emblématiques, la santé avec la vaccination des plus de 4 millions d'enfants contre la polio et l'appui humanitaire multisectoriel à plus de 2 millions d'enfants et familles vulnérables, les enfants, les premiers bénéficiaires des programmes de l'UNICEF, donnent de la voix.
Déjà, je souhaite que l'UNICEF et le gouvernement puissent tenir les promesses. D'ici 2030, ils se battraient pour qu'on ait un Congo où les droits de l'enfant seraient entièrement respectés.
Lors de cette revue, les priorités pour les années 2020 et 2021 ont été également discutées.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Revenons sur l'entretien que la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a accordé en exclusivité à Radio Okapi. Michel Bachelet était en visite en RDC du 24 au 28 janvier 2020, une visite qui avait commencé par Ituri pour se clôturer par Kinshasa, où la diplomate onusienne a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'autres autorités nationales. La haut-commissaire de l'ONU a répondu aux questions d'Alain Rumushinj.
Madame Michelle Bachelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous arrivez en RDC pratiquement une année après l'alternance pacifique que le pays a connue au sommet de l'État. Quel est l'état des lieux que vous dressez des droits de l'homme en RDC aujourd'hui?
Merci beaucoup. I would say there has been a decrease of 3%.
Dans l'ensemble, il y a eu une réduction des violations et des atteintes aux droits de l'homme de 3%. Mais la préoccupation que j'ai le plus, c'est que les acteurs étatiques sont pour 54% responsables de ces violations. C'est en fait ce qui me préoccupe le plus. Mais dans l'ensemble, il y a eu une réduction, mais il y a toujours des violations qui se déroulent et ces violations sont le fait d'agents étatiques pour 54%. C'est ma préoccupation la plus importante. En fait, je voudrais juste parler du cas précis des FARDC, des militaires congolais, qui sont pour 28% responsables de ces abus, de ces violations et atteintes aux droits de l'homme. Et je parle de cas qui ont été vérifiés par notre staff. Donc, je lance un appel à l'État pour que ces abus cessent, pour qu'il y ait des mesures qui peuvent aider à endiguer ce phénomène, ces exactions commises par les FARDC en particulier. Je voudrais pourrait aussi parler du fait qu'il y a eu une augmentation de violations et d'atteintes aux droits de l'homme, alors de 40% qui ont été perpétrées par des groupes armés. Ces violations sont à la hausse. Il y a aussi une augmentation des violences sexuelles. Donc ça, c'est deux points essentiels sur lesquels aussi je voudrais mettre l'accent. Ce qui est important aussi, il faut le souligner, il y a eu des progrès qui ont été accomplis. Je peux parler du cas précis des droits fondamentaux. Il y a eu une diminution de 26% des violations et atteintes aux droits fondamentaux. Je veux parler du droit à la manifestation, de la liberté de la presse, tout ce qui touche des droits fondamentaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles aussi il faut insister. On n'a pas vu de prisonniers politiques ou de prisonniers d'opinion emprisonnés. Au contraire, il y a eu une libération de ces prisonniers. Donc ça, c'est des progrès qu'il faut encourager.
And of course, demonstrations which should continue to be free and have no repression on that.
Le 10 janvier dernier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport selon lequel au moins 701 personnes ont été tuées dans les conflits communautaires dans le territoire de Djougou en Ituri entre septembre 2017 et septembre 2019. Selon ces documents, la grande majorité des victimes des attaques semblent avoir été visées en raison de leur appartenance à la communauté EMA. Le rapport indique qu'il pourrait s'agir de génocide ou de crimes contre l'humanité. Ce rapport, vous le savez, a été contesté par la communauté Telendu, qui le juge partial et truffé d'erreurs. Vous avez rencontré cette communauté à Bunia. Quelle est la réponse que vous leur avez donnée?
Well, first of all, the reason that I went to Ituri is because.
En fait, je suis allé dans le territoire de l'Ituri suite au rapport qui a été publié le 10 janvier. Et sur place, j'ai parlé à toutes ces communautés, j'ai parlé aux Lindou et Eba. En ce qui concerne particulièrement le cas des Lindou, qui ont dit que ce rapport était truffé d'erreurs, je leur ai dit que nous observons une méthodologie qui est la même dans toutes les recherches que nous faisons, dans tous les rapports que nous publions. Et ce sont des standards, nous vérifions les informations, nous allons sur le terrain. Recueillir des informations que nous vérifions. Donc je leur ai dit que ce rapport, selon moi, était objectif et mon bureau conjoint, comme partout ailleurs, ils font le même travail et je crois qu'ils ont fait un bon travail. Maintenant, ils ont montré, ils ont dit qu'ils allaient peut-être nous donner des informations supplémentaires et qu'on travaillerait dessus. Comme vous le savez, j'ai parlé à la communauté Lindou, je leur ai dit que nous travaillons sur la base d'informations vérifiées et que ce que nous avons mis dans le rapport, ce n'est pas seulement les attaques qui ont été perpétrées par les Lindou contre les EMA. Nous avons aussi enregistré des attaques qui ont été perpétrées par les EMA sur les Lindou et nous les avons inclus dans le rapport. Je leur ai aussi dit qu'il y a eu des abus qui ont été perpétrés par les FRDC, les forces de sécurité congolaises, et que ces abus aussi sont dans le rapport. Ensuite, je leur ai expliqué que nous sommes ouverts à des suggestions, à des informations supplémentaires que vous pourriez nous donner et nous allons les vérifier et faire de telle sorte que le rapport soit beaucoup plus objectif.
So I invited him to share any information about human rights abuses and violations that were not included in the report, but for us so it can be verified.
Plusieurs personnalités et organisations congolaises demandent à la CPI de prendre en compte les crimes et autres exactions commis par les groupes armés nationaux et étrangers, notamment dans l'est de la RDC. Quel est votre avis?
Well, we think that justice is an essential element of the pathway to peace. Peace.
Comme vous le savez, la justice est un élément essentiel pour tout processus de paix durable. Nous ne tolérerons aucune impunité et toutes ces personnes qui ont été des auteurs de crimes graves, de violations, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, ces gens-là doivent être traduits en justice. Et en ce qui concerne la CPI, le rôle premier de la CPI, c'est de traduire ces acteurs de violations devant la justice pour qu'il n'y ait pas prime à l'impunité. C'est le rôle essentiel de la CPI. Mais comme vous le savez, la CPI ne peut pas se substituer au gouvernement congolais. La CPI vient seulement en appui. Il est d'abord du ressort du Congo, de la RDC, de juger ces acteurs de crimes graves, d'atteinte aux droits humains. La CPI ne peut intervenir que si un gouvernement n'a pas les ressources nécessaires ou les capacités nécessaires pour traduire ces personnes devant la justice. Et ça se passe comme ça. Je voudrais aussi parler des progrès qui ont été accomplis dans le domaine judiciaire. Nous avons vu ces progrès surtout en ce qui concerne la justice militaire. Aussi bien du côté des groupes armés, aussi bien du côté des forces de sécurité nationale, il y a eu des hauts commandants qui ont été arrêtés, qui ont été jugés. Ça, ce sont des progrès louables et nous sommes très contents de voir que dans ce domaine, le gouvernement est en train de faire un très grand progrès. Et nous allons continuer à leur apporter notre assistance, notre soutien pour que ce système soit beaucoup plus renforcé et que tous ces auteurs de crimes graves, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre soient traduits devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes.
So I would always also like to underline our commitment to continue providing technical assistance and other kind of support to the judiciary.
Dernière question, Madame Bachelet, pour terminer cet entretien. Les droits de l'homme, vous le savez, c'est aussi les conditions carcérales qui sont déplorables en RDC, où l'on a enregistré plusieurs décès des prisonniers. Quelles sont vos recommandations de manière générale aux autorités congolaises pour améliorer le secteur des droits de l'homme?
Well, the first thing is I'm really, really concerned to hear about the conditions of prisons.
Évidemment, la situation des prisons à RDC est une situation très préoccupante. Nous sommes au courant des conditions infrahumaines dans lesquelles les prisonniers vivent, la surpopulation carcérale, le manque de nourriture adéquate. Mais en fait, nous avons eu à parler avec le gouvernement et ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait. Ils ont parlé d'une initiative qu'ils vont avoir. Ils vont faire le tour de toute la RDC, voir l'état des prisons à RDC. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas en une minute ou en une journée construire des prisons, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des moyens pour diminuer, par exemple, cette surpopulation. On peut voir, par exemple, cas par cas, les gens qui ont commis peut-être des délits mineurs, qui sont en attente d'être jugés. Peut-être qu'on peut essayer d'aménager, de voir comment est-ce qu'on peut libérer ces gens pour, en fait, permettre à ces prisons d'avoir un niveau de population moindre. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Et ce qui est bien, c'est qu'on a parlé au gouvernement, au ministre de tutelle, ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour leur apporter notre soutien dans cette initiative.
They are aware of this and they have told me that they're going to take additional measures to try to address the problem.
Madame Michelle Bachelet, je rappelle que vous êtes la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Le nouveau commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Ricardo Augusto Ferreiro Costa Neves, a pris ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée le mardi 28 janvier au quartier général de la MONUSCO à Goma. Le commandant de la force de la MONUSCO remplace à ce poste le général Elias Rodriguez Martins Filho. Ce dernier a terminé son mandat le 31 octobre 2019. Volet humanitaire à présent avec le ACR, près de 25 000 familles auraient fui vers Nobili et ses environs au nord du territoire de Beni. Cela depuis fin décembre 2019, en cause des attaques des groupes armés. Le ACR cite le comité directeur des déplacés internes. Vu la situation humanitaire préoccupante due à cette situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR est sur place afin d'identifier et de répondre aux besoins des populations dont la plupart sont confrontées aux nombreuses violations des droits de l'homme. Enfin, une équipe de la Commission économique pour l'Afrique vient de séjourner pendant une semaine en RDC. Cette équipe a eu, notamment à travers des réunions et des visites de terrain, à sensibiliser les autorités nationales, les bailleurs et les agences du système des Nations Unies sur le programme de l'ONU pour l'identité juridique dont la RDC est pays pilote. L'objectif de la mission était de développer une compréhension commune de l'intégration possible des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, des gestions d'identification des personnes et des statistiques d'état civil.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je voulais annoncer dans le sommaire, l'invité aujourd'hui c'est le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder. Mardi, l'UNICEF et le gouvernement ont présenté à Kinshasa la revue annuelle 2019 sur la situation de l'enfant congolais ainsi que sur les perspectives 2020-2021. En marge de cette manifestation, le représentant de l'UNICEF a répondu aux questions de Jean-Pierre Elali Koko. Suivez.
Monsieur le représentant de l'UNICEF, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à la présentation de la revue annuelle du programme UNICEF gouvernement de la République démocratique du Congo. Quelle est l'évaluation que vous faites par rapport à ce partenariat pour l'année 2019?
Tout d'abord, je suis très heureux que vous me posiez cette question qui, pour moi, reflète deux sujets. Le premier, c'est quelle est la situation des enfants au niveau de la République démocratique du Congo et comment mieux travailler ensemble. Donc la situation, même si elle a tendance à s'améliorer, on a quelques bons résultats dont on a parlé aujourd'hui, comme d'avoir plus d'enfants à l'école, d'avoir une baisse de la mortalité infantile, d'avoir plus d'enfants enregistrés. On voit aussi qu'il y a quand même toujours de grands problèmes qu'on n'arrivera pas à régler tout seul. Et il faut qu'effectivement on ait un partenariat plus intense entre les différents secteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la multisectorialité. Je prends un exemple tout simple. Nous avons réussi ces dernières années à augmenter l'enregistrement des enfants, qui est passé de 25% à 40%. Aujourd'hui, nous discutons avec le ministère de la Santé pour que la vaccination puisse accélérer l'enregistrement des enfants et passer à 80%. C'est tout à fait possible, ça demande des moyens supplémentaires, mais pas des moyens énormes, mais ça pourrait faire une grande différence au niveau de l'enregistrement des enfants.
Vous avez justement insisté sur la collaboration qui doit exister entre ces différents secteurs, entre les différents ministères, et c'est important pour vous.
Oui, parce que c'est la façon d'obtenir les meilleurs résultats. Le gouvernement insiste sur l'éducation pour tous à travers la gratuité de l'éducation dans le système primaire. Oui, mais il faut aussi retenir les enfants. Donc il faut avoir des cantines scolaires, une meilleure sécurité alimentaire pour permettre aux parents d'envoyer les enfants. Il n'y a pas que la question du coût, il y a aussi la question d'apprendre mieux, mais aussi pour l'enfant d'être capable de mieux apprendre. C'est important que le ministère de la Santé, le ministère de l'Alimentation et d'autres contribuent aux résultats du ministère de l'Éducation.
Et vous avez parlé des secteurs. Alors, quels sont pour vous les secteurs qui n'ont pas marché en 2019 pour les enfants congolais?
Alors, c'est une revue. Tous les secteurs ont contribué. Maintenant, il y a des contributions qui sont plus fortes que d'autres. Certaines n'ont pas forcément les budgets. Certaines n'ont pas forcément eu l'implémentation qu'elles auraient souhaité. Mais c'est là où nous, en tant que partenaires, nous sommes là pour essayer d'apporter les résultats pour l'enfance. Je pense que les prochaines années vont être très importantes. C'est pour ça que l'UNICEF, en plus de travailler dans l'éducation, la protection de l'enfance, la santé, notamment la riposte contre les épidémies, mais aussi la nutrition et l'eau, nous allons aussi travailler sur la mise en place des cellules d'animation communautaire pour tous les secteurs. Et là aussi, une cellule d'animation communautaire, on ne travaille pas uniquement pour le secteur de la santé ou nutrition ou l'éducation, mais elle travaille au niveau de la communauté pour essayer de voir le meilleur gain pour l'enfance. Comment envoyer les enfants à l'école, comment s'assurer qu'ils sont enregistrés, comment s'assurer qu'ils ont reçu leur carte de vaccination et autres. C'est là où cette multisectorialité est importante. Dès qu'on est au niveau communautaire, elle fait de sens. Et donc, avoir ces questions autour de l'école, autour des centres de santé, autour des cellules communautaires, ça nous paraît mettre du sens et les ministères devraient effectivement, à travers la décentralisation, supporter ces centres qui s'occupent des enfants.
Les problèmes des ressources financières est revenu comme un leitmotiv dans tout les domaines qui ont été présentés ici. Et ça, c'est vraiment interpellateur pour l'UNICEF.
Oui, le financement est naturellement au cœur des discussions parce que à un moment, lorsqu'il y a une volonté, une motivation et une façon qu'on sait va pouvoir fonctionner, il faut aussi mettre la partie des financements. Mais je pense que les financements viennent lorsque les partenaires voient les résultats. Donc, il est important de démontrer que certaines solutions marchent et à partir de là, je pense que les financements viendront.
Est-ce que vous avez une idée sur les financements de l'UNICEF pour l'année 2020-2021?
Alors, les besoins annuels sont autour de 320 millions de dollars qui sont décomposés sur les différents secteurs d'intervention sur les 26 provinces. L'UNICEF travaille à partir de 12 bureaux dans les 26 provinces et on travaille d'une façon décentralisée aussi avec les gouverneurs. Donc on a une partie, je dirais, avec le ministère qui est sur le côté normatif et puis essayer que les bons exemples ou les bons pilotes puissent être mis à l'échelle, mais aussi au niveau des provinces avec les gouvernements provinciaux pour atteindre des résultats directement.
Monsieur le représentant, je vous remercie.
Je vous en prie.
Justice, suite du procès des présumés assassins des experts de l'ONU, nous sommes à Kananga, au Kasaï central. À l'audience du jeudi 30 janvier 2020, le ministère public a révélé à la cour militaire des propos qu'un prévenu aurait tenus sur le mobile de l'exécution des Aïda Catalane et Makershap. Le prévenu Tchieboué Bibomba aurait déclaré que ces deux experts onusiens avaient été exécutés parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres envoyés par le président Kabila, dit-il, et l'accusé a nié avoir fait pareille déclaration. Joël Bofengo nous en dit plus.
Cette révélation intervient pendant que la cour, la défense et l'accusation interrogent certains prévenus sur les raisons de l'existence de la milice Kamuinanzapu. Le ministère public fait alors venir à la barre Tchieboué Bibomba. Le colonel Mouaou affirme que ce prévenu a déclaré devant ses co-prévenus, détenus au cachot de l'auditoire militaire, que si lui et les autres miliciens ont tué Zaïda Catalane et Michael Sharp, c'est parce que les deux experts étaient des traîtres envoyé par Joseph Kabila. Interrogé à ce sujet, Tchieboué nie catégoriquement avoir tenu ses propos. Deux de ses co-prévenus affirment pourtant l'avoir bien entendu faire cette déclaration. Thomas Kachama confirme en effet avoir entendu ses co-prévenus discuter de la milice. C'est au cours de cette discussion que Tchieboué aurait fait cette révélation. Qu'est-ce qu'il avait dit? Demande le président des séances, le colonel Tchaïkolo. Nous les avons tués parce qu'ils étaient envoyés par Joseph Kabila pour incendier Dibaya, répond Kachama, citant Tchieboué. Tchabakanoa, un autre prévenu détenu également au cachot de l'auditorat, affirme avoir suivi cette discussion et la déclaration de Tchieboué. De Kananga, Joël Bofeng, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quid de la création des comptoirs civilisés dans l'est du pays, préconisé en son temps par l'ancien représentant spécial en RDC, l'américain Roger Miss? Question posée au cours de la conférence de presse des Nations Unies le mercredi 29 janvier à Kinshasa. Suivez la question et la réponse du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Dioy.
Lors de son mandat à la tête de la MONUSCO entre 2010 et 2013, M. Roger Miss avait insisté sur la création à l'est de la République démocratique du Congo des comptoirs civilisés pour mieux contrôler les transactions minières, étant donné que le casus belli, c'est-à-dire ce qui engendre les guerres à l'est de la République démocratique du Congo, sont le fait de l'exploitation sauvage des minerais congolais. À l'heure actuelle, puis-je me sentir apaisé sur le fait que ne fût-ce qu'un seul comptoir a été créé?
Il y a des mécanismes qui existent, ça il faut que vous le sachiez. Un système de traçabilité existe. Je vous renvoie au protocole développé dans le cadre de la conférence des Grands Lacs, mais également dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Le groupe d'experts des Nations Unies, mandaté par le Conseil de sécurité, a justement pour mandat de surveiller les trafics liés aux armes, mais également aux minerais, qui sont des véhicules qui alimentent le conflit en RDC. Il y a un système de traçabilité qui est en place, mais qui reste largement insuffisant pour couvrir l'essentiel, ce vaste trafic qui existe à l'est du Congo et qui concerne les minerais. Donc la promesse de Roger Miss a été mise en application. Mais la mise en application reste largement insuffisante vu l'ampleur effectivement du trafic et le fait effectivement que le conflit se nourrit de ce trafic-là du minerai. Je vous renvoie au rapport du groupe d'experts qui travaille de façon très très étroite et qui surveille cette situation, qui continue à observer et surveiller les couloirs vers lesquels ces minerais atterrissent jusqu'à Dubaï. Tout ce travail-là est fait avec effectivement les autorités congolaises.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À présent, notez dans votre agenda, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le 6 février, journée mondiale contre les mutilations génitales. Du 6 au 8 février, 3 jours de journée mondiale sans téléphone portable. Vous avez compris, nous sommes à la fin de ce magazine. Il a été coordonné et réalisé par Jean-Pierre Elali Koko, qui était aussi au reportage. Honoré Misengakalala au reportage également. Jean-Noël Mokondo était à la technique et moi, Belinda Bosuma, je vous l'ai présenté. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et restez en compagnie des programmes de Radio Kapi, la fréquence de la paix.